L'argent, l'argent, ça fait pas le bonheur.
Enfin, ça aide hein, quand même.
Parfois, ça aide.
C'est du pognon dont vous êtes malade.
Du pognon ?
Oui !
Le pognon, le pognon, le pognon, le pognon !
Mais le pognon, il faut le prendre là où il est, gros nigaud. Il y en a partout, ça ruisselle dans les caniveaux. Fais comme moi, t'as qu'à te baisser.
Comprendre les mécanismes de l'argent, les rouages de cette crise financière pour nous, c'est faire les bons calculs économiques, les BCE en abrégé. C'est le premier mercredi de chaque mois, à midi, avec Benoît Boussemard et nos spécialistes sur Radio Campus Lille, 106,6 MHz ou sur le web www.campuslille.com. À bientôt.
Je vous le disais il y a quelques secondes à peine en titre de cette édition, le syndicat CFDT d'Auchan France a annoncé hier en conférence de presse la possible suppression de 1700 postes sur 3 ans au sein du groupe nordiste, dont près de 200 dans la région Nord-Pas-de-Calais. Selon le syndicat, toujours, il s'agirait de départs volontaires non remplacés à travers un PTE, un plan de transformation de l'entreprise. La procédure a été mise en place depuis le printemps dernier et impacte principalement les emplois administratifs, les vendeurs équipements maison et des standardistes du SAV. Auchan appelle pour cela au départ volontaire ou au reclassement, mais le syndicat ne comprend pas car selon la CFDT, l'entreprise va bien et continue même d'investir aujourd'hui. Il dénonce également le paradoxe dont profite le groupe, car Auchan devrait en effet prochainement profiter de crédits d'impôt dans le cadre du pacte de compétitivité gouvernementale. Mais selon le syndicat, en contrepartie, la société ne joue pas le jeu et ne garantit donc pas l'emploi. Une situation que dénonce en fait la CFDT à la veille d'un comité central d'entreprise. Écoutez les explications complémentaires à ce sujet de Guy Laplatine, délégué syndical CFDT d'Auchan France au micro de Macha Grunessen.
Il y a d'un côté, soi-disant, une souffrance sur la France, mais qui continue à générer beaucoup d'argent pour alimenter l'ensemble du groupe et qui est en phase de Big Bang. Hein. On est un peu, je ne vais pas dire comme chez McDo qui ouvre un magasin tous les semaines, mais on en ouvre plusieurs par mois actuellement. Et puis en même temps, on dit aux salariés français qui ont constitué le groupe, qui ont fait le groupe, qui ont permis donc au groupe Auchan de devenir ce qu'il est, bah faites des efforts et acceptez même de perdre votre poste et même peut-être votre emploi, puisque ça peut se traduire comme ça. Il y a un truc qui colle absolument pas. Et puis en même temps, il y a des mesures gouvernementales qui sont censées favoriser l'emploi et avec des contreparties qui vont être assez généreuses pour la grande distribution et pour Auchan, il y a des choses qui ne collent absolument pas.
L'argent, ça fait pas le bonheur.
Enfin, ça aide hein, quand même.
Parfois, ça aide.
Vous écoutez donc Radio Campus Lille, un magazine BCE, Bons Calculs Économiques. Alors, en introduction, vous avez entendu le jingle de l'émission et un extrait du journal télévisé de FR3 de décembre. On ne peut pas dire que l'on n'était pas prévenu. Auchan, Lardoute, on licencie. Rassurons-nous, les actionnaires se portent bien, les candidats aux élections municipales aussi. Noël 2014 a commencé très tôt pour quelques-uns avec le pacte national pour la croissance et la compétitivité. Et on va vous expliquer leurs bons calculs économiques. Alors autour des micros, Benoît.
Oui, bonjour.
Fabien.
Bonjour.
Et votre serviteur. Alors Benoît, donc un supermarché de dupes à Auchan pour les salariés, j'ai cru lire.
Oui.
C'est pas une nouveauté.
C'est pas nouveau du tout. Donc quand on regarde de près, de toute façon, et je le fais depuis maintenant quelques années, oui, quand même, quelques dizaines d'années, quand on regarde un petit peu les comptes de l'ensemble de la famille Mullier et de Auchan en particulier, on s'aperçoit que c'est un groupe qui devient un groupe tentaculaire. Je rappelle, on l'avait déjà dit ici, que le groupe Mullier devient pratiquement le deuxième grand distributeur mondial derrière Walmart, qui est intouchable, qui a dépassé Carrefour. Ça sera encore plus vrai cette année sur les comptes 2013 qui sont annoncés, et on va revenir tout de suite sur Auchan France par rapport au groupe Auchan, parce qu'on mélange tout. Hein. Et notamment pour les salariés qui n'y comprennent pas grand-chose sur les annonces qui sont faites en termes de chiffres. Notamment donc groupe Auchan par rapport à Carrefour. Je rappelle que Carrefour a annoncé cette année que sur 2013, il avait un tout petit peu gagné de chiffre d'affaires en France, mais ce n'est pas encore confirmé avec les chiffres de consolidation, donc ce sont des chiffres TTC, etc., etc. Mais qu'en revanche, en consolidation, il avait perdu près de 2% de chiffre d'affaires. Donc s'il a perdu comparativement 2% de chiffre d'affaires, Ça veut dire qu'au niveau mondial, il va être largement dépassé par Auchan, qui, lui, va gagner encore beaucoup de chiffre d'affaires. Comme le disait Guy Laplatine tout à l'heure, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, Auchan France a été à l'origine de l'ensemble du groupe. C'est Auchan France qui a financé toutes les expansions, d'abord en France, puis à l'international, d'abord en Europe, puis ensuite en Europe de l'Est, avec la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la Russie depuis quelques années, très récemment. La Chine, où il est en train de prendre des positions assez dominantes également. Et donc on est dans un système où le financement se fait par la France et continue à se faire par la France. Alors, il faut regarder les euphémismes qui se cachent derrière les chiffres. Premier euphémisme, on perd de l'argent. On arrête d'abord là, parce qu'on crie avant d'avoir mal, à mon avis. Hein. Quand vous êtes avec une direction du groupe Mulier qui dit on perd de l'argent, ça veut dire qu'il gagne peut-être, parce qu'on n'a pas les chiffres, un petit peu moins d'argent que les années précédentes. Un petit peu moins. Et quand on regarde de très très près ce qui se passe réellement, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, sur 2013, Groupe Auchan, il a publié des comptes. Pour l'instant, les comptes de Groupe Auchan sur 2013, la totalité, c'est plus de chiffre d'affaires sur le premier semestre 2013 par rapport au premier semestre 2012, et c'est beaucoup plus de bénéfices nets premier semestre 2013 par rapport au premier semestre 2012.
Donc ça va mieux.
Globalement, ça va beaucoup mieux. Alors,
pour eux,
on se rassure. Par contre, quand on regarde pour Auchan France, il faut bien comprendre que Auchan France, c'est une société. Et c'est une société avec un périmètre, comme on dit en termes comptables, qui est précis. C'est uniquement les hypermarchés France. Et encore, pas tous les hypermarchés. À côté de ça, il y a des hypermarchés qui sont en liaison avec le groupe Shiver, qui ne sont donc pas là-dedans, puisque c'est une société à part. Il y a les hypermarchés qui sont des hypermarchés franchisés. Par exemple, Auchan, qui est très malheureux manifestement, il vient de racheter ou de récupérer deux hypermarchés à La Réunion et une série de supermarchés à La Réunion également en franchise. Quand on regarde le chiffre d'affaires consolidé l'année dernière, en 2012, dernier chiffre d'affaires, ils ne vont pas publier leur compte avant le début mars. Hein, donc, un petit peu de patience, mais je prends les paris, je le dis publiquement maintenant. Le chiffre d'affaires 2013 de Groupe Auchan sera largement supérieur au chiffre d'affaires consolidé 2012 de Groupe Auchan. Et je dis également, je prends le pari, que le résultat net de Groupe Auchan 2013 sera supérieur au résultat net de Groupe Auchan 2012. Parce que tout simplement, il y a une série de plus-values qui ont été faites. Donc si on revient au périmètre, Groupe Auchan ne représente que les hypermarchés. Donc par exemple, vous avez des drives qui sont à part. Il y a des drives attachés aux hypermarchés, mais il y a des drives à part. Et ces drives à part sont en train de prendre beaucoup d'extensions, mais c'est une filiale directe de Auchan SA. Et pas une filiale qui est comprise dans les hyper.
Alors c'est pas Groupe Auchan. Groupe Auchan, il fait pas que les hyper.
Et après, il fait plein de trucs. Oui, il fait les supermarchés, il m'ouvre, etc.
Juste Groupe Auchan, c'est que les hyper, c'est pas que les hyper. Alinéa dedans.
Ah bah, il y a Alinéa dedans, etc.
Un tas de sociétés. Il y a plus de 800 sociétés.
Oui, moi j'avais publié à un moment donné l'organigramme. J'ai remis un petit peu d'ordre dans tout ça, mais ça évolue constamment, effectivement. Et donc, quand on regarde Groupe Auchan, Groupe Auchan, on a quatre données, hein, principalement. On a la partie hyper. Donc ça, c'est une société holding qui s'appelle Auchan Hyper. On a la partie immobilier. Donc c'est tout Immochan avec des super concepts maintenant. On va y revenir parce que la joie, la gaieté et la consommation, ça va ensemble.
Et les commerces du village. Voilà. En pleine ville.
Et donc, on est avec cette partie-là. Et après, on est avec une troisième partie qui est les supermarchés, c'est Simply Market, les ex-attaques. Et puis après, on est avec la banque, puisqu'on a Auné et Banque Accor. Tout le monde connaît sa petite carte que vous allez au champ, où on prend d'une main ce que vous reprenez de l'autre. Hein. Donc, pour revenir sur Auchan France, on est en train d'annoncer effectivement des suppressions de postes, si j'ai bien compris, des suppressions d'emplois. On ne sait pas très bien de quoi il s'agit d'ailleurs. Je ne sais même pas si les salariés circonnaîtront dans les communiqués. Mais
si, les postes sont définis. Hein.
Donc, les postes sont définis maintenant.
Ouais, ouais. On sait que c'est 200 secondes rayon, 450 chefs de rayon et 150 chefs de secteur.
D'accord.
Total 800.
D'accord. Donc, ce sont des gens qui avaient été passés sur un statut d'agent de maîtrise ou de cadre à l'époque.
Ah bah, les chefs de rayon et les chefs de secteur sont cadres. Et les secondes rayons, alors il y a une partie qui est employée et une partie qui est agent de maîtrise. Les 200 secondes rayons qui vont être supprimés, c'est chez les agents de maîtrise.
D'accord. Donc on est en train, pour simplifier, parce qu'il faut simplifier de temps en temps le discours, on est en train de remplacer des gros salaires.
Gros salaires, non.
Des gros salaires pour Auchan, relativement.
Pour Auchan, voilà, excuse-moi.
D'accord. Donc des gros salaires relativement pour Auchan, par des beaucoup plus petits salaires pour Auchan, voilà, aussi. Donc,
Les classifications, elles vont tirer vers le bas.
Bah, c'est clair.
Parce que il y a 400 chefs de rayon en moins, mm-hmm, mais les chefs de rayon qui restent, entre guillemets, vont voir leur métier transformé. Ça ne s'appellera plus chef de rayon, ça va s'appeler manager de commerce.
Ah, c'est génial.
Voilà. Et le manager de commerce, il sera, à la fin des trois années, là, pour les deux tiers, il sera passé agent de maîtrise. Donc les chefs de rayon ne resteront pas cadres.
D'accord. Donc si je comprends bien ton système, parce qu'il y a eu des annonces dans ce sens-là, on est en train de faire ce qu'on appelle aux États-Unis du lean management. Lean. Lean management, L-E-A-N, pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais. Lean management, c'est aux États-Unis quelque chose de très simple. C'est égal à dégraissage. Le fondamental du lean management, c'est du dégraissage. On est en train de réduire les effectifs pour faire de plus en plus de profits. Avec des applications qui sont assez spéciales dans le lean management, c'est le système organisationnel de la pyramide inversée.
Ah ben c'est ça, oui. C'est
la responsabilité au plus bas niveau de la hiérarchie. Voilà,
pyramide inversée, servante leader.
André, tu fais du mauvais esprit parce qu'on est en train de donner des responsabilités à des gens qui n'en avaient pas. D'accord. Donc les gens qui étaient à la base vont avoir beaucoup plus de responsabilités, vont avoir beaucoup plus de travail, responsabilités qui étaient autrefois prises par les cadres. Donc c'est quelque chose de génial, en fait, quand on regarde de près. On va exploiter beaucoup plus du petit personnel, leur donner des responsabilités sans leur donner de salaire. Et donc, à partir de là, tout va bien pour les sous qu'on met d'une poche et qu'on reprend de l'autre.
Oui. Ouais, finalement, c'est la multiplication des écoles de commerce pour former ces cadres.
Absolument.
Bah, le lean, cadre-là, c'est on entend beaucoup parler de ça.
Ah oui, bien sûr.
Le projet efficacité opérationnelle qui a été mis en magasin sur les employés, c'est ça. Mm-hmm. Bon, c'est ce qui vient du toyotisme, etc. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, il y a des cadres de la DSI qui sont allés voir dans une société avec lean mis en place, lean management mis en place, ils sont revenus enthousiasmés.
Ah ben, c'est formidable. Il n'y a plus besoin de cadre. Et c'est le fameux système dont j'avais parlé une fois il y a quelques temps, ça. Le fameux système de Aoki, un japonais. Et donc Aoki, il a appliqué ça dans l'industrie automobile, mais ça fait de ça 20-30 ans. Et c'est effectivement tout ce qui tourne autour des cercles de qualité, etc. C'est-à-dire que les gens sont auto-responsables de tout. Quand il manque quelqu'un, ben, ce quelqu'un n'est pas remplacé, c'est l'équipe qui remplace, etc. etc. Sur les salaires, bien évidemment, les salaires, ils sont négociés au sein par rapport à un objectif qui est fixé tout en haut, mais là, ils ne savent pas pourquoi. Donc on est dans un système d'auto-exploitation absolue. C'est-à-dire que là, ça va très très bien d'ailleurs avec le système d'intéressement et de participation de Auchan, puisque la participation et surtout l'intéressement, c'est quelque chose qui est en direct avec le système japonais. C'est-à-dire que c'est le mérite, c'est l'équipe, et c'est l'équipe qui est globalement responsable. Donc tout le monde a intérêt à se défoncer au travail pour que ça soit magnifique et que ça sorte bien à la fin. Hein, donc on est vraiment là, dans le top du management auto-exploité. Hein, on est dans un système où on n'a plus besoin de petits chefs pour exploiter les gens. Ils s'exploitent tout seuls, tranquillement.
Il faut dire qu'il y a une telle qualité des petits chefs, en tout cas ceux que je connais à Auchan, ils ont intérêt à s'en passer, hein, parce que ça leur coûte une fortune. Bon.
Bah, donc tu vois, tu
excuse-moi,
tu as des pistes d'économie qui sont sérieuses et qui sont manifestement en train d'être faites. Donc on est en train de faire quoi ? De supprimer des postes. Et ces suppressions de postes, bien évidemment, elles ne sont absolument pas, elles n'ont pas pour fonction d'être remplacées. Quand on dit qu'il va y avoir des créations d'emplois,
Les créations d'emplois, ils sont annoncées, mais pour les employés.
Voilà.
Il y a un nouveau métier d'employé qui va être créé. Et donc il va y avoir un système de repositionnement entre certains employés qui étaient notamment seconde rayon, mais niveau employé, qui vont être repositionnés peut-être à ce niveau-là. Mais, et puis des ELS qui vont pouvoir, entre guillemets, passer sur des postes à responsabilité avec un niveau supérieur.
Voilà, donc on va passer du pas cher vers le moins cher. Pour les frais de personnel.
Voilà. Alors, voilà, avec une petite indication, bon, une possibilité d'évoluer pour les employés, et puis effectivement, des suppressions de postes dans l'encadrement, et une déclassification des métiers.
Ben bien sûr.
Voilà, donc ça, on retire
ce qui permettra des responsabilités aux uns. Et... Ce qui permettra en outre de bénéficier de toute une série d'aides de toute nature qui existent déjà. Je rappelle que les lois Fillon, c'est toujours des lois qui s'appliquent avec les baisses de cotisations sociales sur les bas salaires. Ça continue de fonctionner très bien. Le CICE, on va en reparler, c'est aussi quelque chose qui est du direct par rapport à 2,5 SMIC. Donc on a intérêt à tirer vers le bas les rémunérations pour bénéficier des aides. C'est quand même assez paradoxal qu'un gouvernement socialiste, j'ose plus dire...
Un gouvernement PS.
Tient beaucoup à ce mot. Oui. Il faut rectifier maintenant parce qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. Donc, un gouvernement PS prennent des mesures qui incitent, et qui l'ont fait à chaque fois, les salaires vers le bas. Je disais un jour aussi qu'on devrait bientôt arriver tous avec son bol de riz, que ça suffirait largement, on en prend le chemin. Donc on est sur une course effrénée à la soi-disant compétitivité-coût, puisque ça va être une politique de l'offre maintenant, sauf que on va offrir des trucs que les gens ne pourront pas s'acheter, quoi. Donc, mais ça permettra d'avoir un cercle vicieux d'approvisionnement et on va tous être au même niveau, celui des Chinois, ce qui était une norme internationale qui est mondiale maintenant dans le cadre de l'exploitation mondiale du capitalisme.
La Chine a gagné.
La Chine a tout à fait gagné. C'est-à-dire que c'est peut-être pas Warren Buffett qui a gagné comme on le croit, mais ce sont les Chinois qui sont en train de gagner. Voilà. Et donc les Chinois sont en train d'imposer leurs normes au niveau mondial parce que eux, ils ont l'argent, ils ont les opérateurs, ils ont une population avec encore beaucoup d'armées de réserve, ils ont récupéré une grosse partie de l'industrie mondiale. Donc ils peuvent maintenant imposer un certain nombre de conditions à ceux qui les achètent, ainsi de suite. Donc on est dans un système où effectivement... Le centre du monde va être de moins en moins, malgré qu'on est encore la cinquième puissance mondiale. J'ai retenu ça des interventions de nos chers ministres Moscovici d'économie et des finances, de M. de Montebourg. Non, Montebourg, pardon. Il n'aime pas qu'on lui mette qu'on lui accole une petite...
Particule.
Donc, on est sur un système où, quand même, les salaires sont tirés par le bas. Ça s'est exactement produit comme ça quand on a fait les lois Fillon. On a eu tendance à baisser les salaires pour être au niveau où on tenait les aides. La quantité d'aides françaises est devenue faramineuse. Je faisais une petite liste de toutes les aides françaises qu'on a pour les soi-disant aides au travail pour la compétitivité, mais il y en a des masses énormes.
Oui, mais pour les grosses entreprises, pas pour les petites.
Et les petites
qui ne peuvent pas se payer des conseillers fiscaux, un personnel administratif pour aller les chercher.
On est bien d'accord.
Et donc il y a une distorsion énorme. Donc les grosses entreprises empochent tout.
Absolument.
Les petits artisans qui sont effarés de ce qu'ils payent, des difficultés qu'ils ont. Rien.
Et ça s'accentue. On prend quelque chose comme le travail du dimanche, par exemple. Le travail du dimanche, on vient de l'étendre dans des zones touristiques comme la région parisienne pour le bricolage. Là, je rêve. Je rêve parce que zone touristique, Paris, d'accord. Je vois pas ce que le bricolage vient faire dans une zone touristique. Je prenais l'exemple...
s'appelle Essonceau pour aller sur la plage.
Paris-Plage.
Ouais, Paris-Plage. Et il faut réparer les monuments historiques.
Ouais, c'est
vrai. On n'a plus d'argent pour payer les entreprises pour le faire, donc c'est les visiteurs qui vont le faire.
Donc on n'est quand même pas obligé, quand on est un Chinois et qu'on a une petite amie à offrir un cadeau, d'aller chez Leroy Merlin ou d'aller chez Casto ou Confo pour acheter un tournevis comme cadeau souvenir de Paris. Bon, il y a bien mieux à faire en termes de tourisme et de système pour attirer les touristes que d'ouvrir les magasins de bricolage. Sephora, même chose avec le groupe Arnaud. Sephora veut à tout prix que tous les jours, on ferme à minuit. Alors bien entendu, on trouve toujours des salariés qui individuellement, ça intéresse. C'est logique, c'est humain en plus. Donc quand quelqu'un il peut travailler la nuit, bénéficie de réduction de son temps de travail pour le jour, pour le reste, peut s'occuper de ses enfants éventuellement si c'est une femme seule au foyer, des choses comme ça. Donc individuellement, ça se comprend. Sauf que le danger, et le danger fondamental dans lequel on est en train de mettre le doigt de plus en plus avec le gouvernement PS, c'est effectivement de détricoter complètement le droit du travail. Le droit du travail, point par point, est en train d'être détricoté par le PS depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Clair. Et ce droit du travail, on le voit sur les rémunérations, on le voit sur la manière de gérer les conflits sociaux, etc., etc. C'est grave. Dernièrement, ils ont quand même envoyé quand même pas mal de cadres de CRS pour empêcher, soi-disant, les deux pauvres salariés cadres qui étaient séquestrés dans une usine. Alors qu'ils n'avaient rien eu de terrible, hein, je veux dire. Bon, ils avaient passé deux jours dans des conditions... ils avaient quand même mangé, à boire, on les a pas maltraités du tout. Mais là, on a envoyé immédiatement deux cadres de CRS. Deux cadres de CRS, tout de suite. Pour faire cesser ce trouble manifeste à l'ordre public. À l'ordre capitaliste, oui. L'ordre public, c'est autre chose. Et donc, on est en train de faire ici... une société où, il y a du flicage, etc., etc. Et en plus, le PS est en train de nous demander de faire des manifestations pour leur faire plaisir, pour lutter contre les manifestants qui sont odieux, certes, mais je ne vois pas aller manifester pour soutenir le PS, moi. Moi, je ne vais surtout pas soutenir le PS. J'avais appelé, j'ai eu tort, à voter Hollande, comme j'avais voté Chirac. J'ai honte, mais bon...
On ne posera pas la question pour les prochaines élections présidentielles.
Pour les prochaines élections, je serai particulièrement embarrassé. Tu vois. Donc j'ai un gros, gros problème métaphysique sur des gens qui font exactement l'inverse de ce qu'ils ont annoncé comme programme politique et économique. Le programme du PS, moi président, oui. Mais ouais, c'est président, moi je fais rien. Ou plus exactement, je fais l'inverse.
Fait beaucoup de choses.
Je fais exactement l'inverse de tout ce que j'avais promis que j'allais faire.
Non, il applique le programme de l'Union européenne, il casse tout.
L'Union européenne, c'est bien joli aussi. C'est-à-dire que le CICE, on va y revenir juste après peut-être, le CICE, c'est quelque chose qui est pour toutes les entreprises. Toutes. CICE. Ça s'adresse à toutes les entreprises qui bénéficient effectivement de ces 2,5 SMIC pour obtenir une baisse de leur coût salarial. Mais c'est très sympathique, ça. Sauf qu'il y a 70% des entreprises, mais qui sont collées au territoire national. Collées. La grande distribution, par exemple, je vais pas aller faire un tour par la Chine pour aller acheter chez Gérard Meunier chinois des produits revenir ici avec mon caddie. D'accord ? Je vais pas aller chez un coiffeur chinois ou un coiffeur américain me faire coiffer et revenir en France. Quand je vais chez le coiffeur, je suis bien obligé d'aller près de chez moi. La grande distribution, elle ne va pas déménager ses hypermarchés, elle les garde parce que c'est cloué au sol, ça. Donc, ils sont dans la glaise, là, ils ne peuvent pas sortir.
Donc, c'est
ça.
Un beau petit cadeau.
C'est un pur cadeau. C'est-à-dire que, de mon point de vue, qu'on fasse ça pour des entreprises industrielles où il y a des risques de délocalisation, clair. C'est vraiment important. Sauf que là, tu parles des règles européennes. Les règles européennes, elles sont assez strictes maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de donner en Europe à l'État. On n'a plus le droit de donner ou de prendre une mesure qui ne serait pas généralisée à l'ensemble des activités économiques. Donc le CICE a été fait pour tout le monde parce qu'ils ont eu peur, manifestement, que ça soit retoqué par Bruxelles. Sauf que on pouvait très bien faire comme le font les Allemands ou d'autres, c'est-à-dire ajuster ça pour un ensemble d'activités. Si on prenait que l'industrie, c'était très bien. Et ne se serait pas fait retoquer pour l'industrie. Il y a des tas d'accords allemands de limitation des salaires dans des branches d'activité, par exemple. On prend IG Metall qui signe des accords sur la métallurgie, sur les limitations de salaire, on l'a vu pendant un certain temps, des choses comme ça. Donc, on peut très bien faire en sorte que Bruxelles écoute. On est la 5e puissance mondiale, zut. Et en Europe, on est la 2e, quand même. Donc, bien avant le Royaume-Uni. Donc, on a la possibilité d'infléchir, si on veut, les règles du jeu au niveau européen. Et donc, pour l'instant, ça ne marche pas, quoi.
Une petite chanson à propos d'Auchan, pour faire une petite pause. Allez, un inédit, une chanson qu'on passe rarement sur Radio Campus Lille, enfin, du moins, un chanteur.
Moi, je t'attends comme un gland sur le parking d'Auchan, où il n'y a pas de bateau mouche, où il n'y a pas de goéland. Il n'y a que des caddies de course, des papas, des mamans, des lessives, des nounours, des yaourts pour enfants. Et j'ai le blues qui me prend, et j'ai le blues qui me prend, sur le parking d'Auchan, sur le parking d'Auchan. Moi je lève mon drapeau blanc sur le parking d'Auchan, les yeux sur l'horizon, océan de piétons. Il y a du monde, il y a des gens, à crédit, pas d'argent. Moi mon chagrin d'amour, j'ai dû le payer comptant. Et j'ai le blues qui me prend, et j'ai le blues qui me prend, sur le parking d'Auchan.
Sur le parking d'Auchan.
Et j'ai le blues qui me prend.
Et j'ai le blues qui me prend.
Sur le parking d'Auchan.
Sur le parking d'Auchan.
Je marche au sentiment sur le parking d'Auchan. Y'a des soleils néons, y'a des rêves au carton. C'est des modes et la mode, ma love story en solde. Je la reverrai pas ici, faut que je trouve la sortie. Et j'ai le blues qui me prend.
Et j'ai le blues qui me prend.
Sur le parking d'Auchan.
Sur le parking d'Auchan.
Et j'ai le blues qui me prend. Sur le parking d'Auchan.
Sur le parking d'Auchan.
On aura tout entendu sur Radio Campus Lille, donc une chanson de 1986, Didier Barbelivien, le parking d'Auchan. Glan rime avec Auchan, c'est assez rare. On l'a gardé dans nos tiroirs.
Mais c'est Barbelivien qui faisait le glan, si j'ai bien compris.
Voilà, ça. Sur le parking. Bon. Bah, nous aussi, parce que si on n'a plus de sous pour acheter, plus de boulot, il n'y a pas de problème.
Bon, pas terrible, alors, terrible comme avenir.
On repart sur Auchan.
Donc, oui, je disais, ce qui est important par rapport à ce CICE, c'est les aides qui sont accordées aux entreprises. Sur Auchan, ça fait combien, Fabien?
120 millions d'euros. 3 fois 40 millions.
D'accord. En plus, je pense que ça va être davantage que ça, puisque la première année, elle n'était que partielle. Alors, ils ont déjà touché 40 millions. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ça devrait monter, je crois, parce qu'il y avait une application qui était un peu différente. Bon, il faudra vérifier ça. De toute façon, les chiffres, pour l'instant, on ne peut pas les vérifier. De même qu'Auchan se plaint de payer de plus en plus de taxes, etc., et que ça plombe son bénéfice, si j'ai bien compris, sur la France. Il y a quand même deux...
J'ai pas compris, c'est Auchan qui paye les taxes ?
Bah oui, donc...
Je crois que c'était le consommateur.
Donc, il y a deux choses à dire là-dessus, justement. Donc, il y a des taxes qui sont les taxes classiques, taxes sur les alcools, la TVA, etc., où toutes les entreprises, que ce soit Auchan, Carrefour, etc., ne font office que de collecteurs d'impôts. Celui qui paye les taxes, c'est le consommateur final. Le consommateur final voit très bien d'ailleurs ce qui se passe pour les cigarettes. Quand il achète ses cigarettes maintenant, qu'est-ce qui a augmenté ? C'est pas le prix du tabac. Ce qui a augmenté, ce sont les taxes qui sont mises sur le prix du tabac. Et c'est le consommateur qui les paye. On ne va pas dire que c'est le cafetier où il a acheté ses cigarettes qui se les met dans les poches, parce qu'eux, ils sont plutôt pas top non plus. Bon. Donc, ces taxes-là, TVA, etc., c'est le consommateur final. Alors on me dira, oui, mais Auchan est généreux, Carrefour est généreux, ils font des luttes de prix avec la concurrence acharnée qui se font pour gagner des parts de marché, certes. Sauf qu'on sait très bien qu'ils s'entendent sur plein de trucs. On sait très bien qu'ils se font de la concurrence qui est plutôt une concurrence de publicité plutôt qu'une concurrence réelle sur les prix. D'ailleurs, moi, je ne peux plus calculer un seul prix dans les hypermarchés ou les supermarchés. Que celui qui me donne le véritable prix d'un produit vienne me voir. Entre les réductions 3-4 fois, 3-4 produits à la place de 2, etc., etc., c'est quoi le vrai prix maintenant d'un produit dans un hypermarché ou dans un supermarché ? Plus les cagnottes qu'on a sur ces cartes ou ces machins comme ça. Donc, quel est le vrai prix ? En fait, la bagarre des prix, c'est une bagarre purement idéologique et de bourrage de crâne que font Leclerc avec son baromètre, etc., que fait Auchan, que fait Carrefour, etc., pour essayer de gagner des parts de marché. Mais si on regardait vraiment les paniers moyens, etc., les paniers moyens, ils sont faits par qui ? Les paniers moyens, ils sont faits par des boîtes comme LSA, etc., c'est-à-dire des boîtes qui ne font que de la pub pour les enseignes dont ils parlent. Donc, les instituts, c'est la même chose. C'est comme les instituts de notation, Fitch, Standard & Poor's, etc., pour les notations des entreprises. C'est des entreprises privées, tout ça, qui se font des profits en donnant des notes aux autres. Mais on ferait bien de commencer par les noter eux-mêmes sur les conneries qu'elles ont faites, je veux dire. Donc, et on verrait que c'est pas brillant. Hein. La première crise financière mondiale est bien due à une de ces fameuses agences de notation qui a fait tout et n'importe quoi. Donc, on est sur un système. Donc, première remarque, c'est celle-là. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, il y a eu un matraquage fiscal. Je ne sais pas si les entreprises devraient se plaindre autant. Parce que quand on regarde les grands groupes, justement, les grands groupes, on s'aperçoit que le taux global de pression fiscale des grands groupes n'est pas de 33%. Normalement, c'est 33%. Quand ils publient à la fin de l'année leurs comptes, et c'est pour ça que j'attends avec beaucoup d'impatience le mois de mars, on va voir que non seulement ils bénéficient de tas de trucs dans le cadre du bénéfice consolidé, bon, fiscalement, c'est quelque chose d'assez compliqué à calculer, mais dedans, bah, ils rentrent les internationales de Belgique, les mesures fiscales qui sont prises dans d'autres pays, etc., etc. Ce qui fait que pour les trois quarts des groupes français du CAC 40, le taux d'imposition est souvent largement supérieur à 33%. Et donc après, les résultats, je veux dire, bon, l'impôt sur les bénéfices, il n'est pas du niveau. D'ailleurs, j'avais écouté Moscovici dans son discours sur LCI, RTL ce week-end. Il avait comme projet de modifier, dans le cadre de sa grande réforme fiscale, attention, ça va être dur, pour nous, oui, pas pour les entreprises, il avait dit, on va aller vers une baisse du taux sur les sociétés pour le mettre au même niveau que les taux allemands, etc. Et il faisait une remarque qui était importante parce qu'il disait on va peut-être les passer à 20%, mais en élargissant l'assiette de l'impôt. Donc quand tu élargis l'assiette de l'impôt, ça veut dire que tu le calcules sur quelque chose de plus vaste. Si tu le calcules sur la valeur ajoutée, c'est pas la même chose que si tu le calcules sur la dernière ligne du contrôle de résultat où tu as tiré les amortissements, les provisions, les trucs comme ça. Donc le système allemand, il est avec un taux affiché d'impôt beaucoup moindre. Mais il est en réalité aussi élevé que le reste. Et sur le CICE, je veux dire, là, c'est... On en discutait tout à l'heure. Le CICE, c'est un cadeau pour toutes les entreprises. Ça n'ajoute pas, comme je disais, à la compétitivité de Carrefour, de Auchan, etc. Carrefour comme Auchan sont cloués au sol. Ce qui est important pour eux, c'est le cadeau fiscal qui est fait pur. C'est du pur cadeau fiscal. Il n'y a pas de concurrence. La concurrence, elle se fait sur le territoire national. Elle ne se fait pas par rapport à métro en Allemagne, ou etc., etc. D'ailleurs, Auchan a racheté des magasins métro. Il a racheté une partie avec Boulanger de Saturne, etc., etc. Attends, on arrête de dire que les Allemands sont...
Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Bon, les salaires n'augmentent pas, ils sont en baisse. Et s'ils ne baissent pas, on vire les gens pour en embaucher certains qui coûtent moins cher à leur place. Les prix... J'ai pas l'impression qu'ils baissent du tout. D'ailleurs, il y a 80% des gens qui ont l'impression que les prix, ils augmentent,
ben oui.
Malgré tout ce qui est fait pour nous cacher. Sûr. Mais alors, qu'est-ce qui coûte cher je sais pas, moi, la famille a rappelé à ses salariés, début 2013, qu'elle exigeait 15% de retour sur investissement pour son argent. Enfin, son argent. L'argent de l'entreprise.
L'argent de l'entreprise. On est bien d'accord. Quand on regarde...
C'est des sommes énormes, ça.
L'accumulation de capital, je pense que j'ai pris les chiffres. Je ne suis plus sûr du tout si je les ai pris, mais j'ai les indicateurs pour, effectivement, les grosses multinationales. Le groupe Mullier, ses résultats, quand on prend, mais ils sont provisoires encore pour 2012, le groupe Mullier a fait 1 milliard 600 millions d'euros de résultats. D'accord.
Pour une quinzaine de millions de chiffre d'affaires
Non, beaucoup plus que ça. Pardon, au niveau mondial, on est à 67 milliards.
Voilà.
Par contre, en fonds propres, on est à 18 milliards. Les chiffres sont provisoires pour les profits parce que Mullier, comme sa bonne habitude, n'a pas publié tous ses comptes. Donc quand il publie souvent que le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires est à peu près juste, mais il m'en manque. Par contre, les capitaux propres comme les résultats, ils sont pas publiables ou pas publiés. Donc on nous cache tout, on nous dit rien, mais on a mal.
Mais bon, je suis content que tu nous dises que c'est de l'argent propre.
Le résultat
des l'argent sale.
Si on prend tous les chiffres d'affaires de ces gros là, Walmart, Carrefour, McKesson, etc., malgré les très mauvais chiffres, par exemple de Carrefour en termes de résultats en 2012, la moyenne des rentabilités c'était 15,6% par rapport aux fonds propres. 15,6. C'est-à-dire que 100 euros de capital rapportés à la fin de l'année, 15,60
euros. Énorme.
C'est énorme. C'est les taux de rentabilité qui sont exigés par tous les fonds de pension au niveau mondial. Et eux, ils ne sont pas sur les fonds de pension. Tous les sous sont chez eux.
Mais ils sont âgés, les propriétaires d'Auchan.
Mais ils sont tous âgés, on est
clair.
Excuse-moi. Sauf que les 500 qui sont là, les 500 Mulliers, ou la famille, au sens large du terme, ils se partagent ces sous-là. donc 500. Là aussi, j'avais fait un petit calcul, je ne l'ai plus en tête, mais ça représentait quand même pas mal d'argent par mulier par an. Je crois que ça devait être l'ordre de, pour chaque mulier, à peu près 2 à 300 000 euros par an, net, pour la partie distribuée. Mais là encore, on n'a pas les chiffres, puisque les trois grosses sociétés qui contrôlent le groupe minier tout en haut, Acant, Simofat et Valorest, ne publient pas leurs comptes. Donc on est en train d'essayer, dans le cadre de la reconnaissance du groupe minier, d'avoir des informations précises là-dessus. On se heurte à une fin de non-recevoir quand même assez étrange de la part des autorités consulaires.
La chambre de commerce.
Le tribunal de commerce n'est pas très très pressé ou s'en presse pas beaucoup pour faire une demande de publication de compte qui est pourtant, d'après la loi, d'ordre public. Et M. Moscovici du Parti Socialiste indiquait bien qu'il y avait un effort de transparence à faire pour que tout le monde sache effectivement qui gagne quoi, etc., pour qu'on puisse dire, ben oui, M. Hollande est arrivé en 2012, en 2017 il va partir, et la France sera une France plus équitable.
Plus riche.
Et plus équitable surtout, plus équitable. On va distribuer mieux entre tout le monde. Si j'ai bien compris, hein, c'était ça. Le principe de répartition en faveur des salariés, notamment par rapport aux riches. Je me souviens de sa diatribe sur les riches. C'était quand même quelque chose de faramineux, je veux dire. J'avais jamais entendu ça. Alors effectivement, ça devait être que du baratin, mais par rapport à ça, pour l'instant, c'est exactement l'inverse. On est dans des systèmes où, par contre, tout ce qui est l'extension de la pauvreté s'accentue de plus en plus. On est bien dans ce cadre-là.
Et encore, la pauvreté qu'on voit, nous habitons en ville, aller dans la France profonde, l'Aisne, la Beauce et autres. Là, vous allez voir les dégâts. Sortez de Villeneuve-d'Ascq, Edouascal, Marc-en-Barœul, Lille, Lambersart. Bon, je pense qu'on peut presque s'arrêter là.
Et donc, pour revenir à nos derniers petits chiffres, l'ensemble des hypermarchés a progressé entre 2012 et 2013, le premier semestre. Les hyper seulement. Bien entendu, y compris les autres. Hein. On est passé de 17,7 milliards à 18,2 milliards. Mais c'est évident qu'ils cartonnent à l'étranger et que c'est la France qui a financé l'étranger. Donc,
c'est des comptes d'exploitation séparés des entreprises séparées, on considère que l'un n'a pas de rapport avec l'autre.
Bah oui, c'est bien pour ça qu'ils ne veulent absolument pas reconnaître un groupe minier. Parce que là, ils vont devoir faire la même chose avec les autres sociétés du groupe, et notamment, pas seulement Auchan, mais derrière la partie Décathlon, le Roi Merlin, etc. etc. Kiabi vient de publier ses chiffres officiellement. De 2013, son chiffre d'affaires a augmenté par rapport à 2012. Moi, j'avais cru comprendre que les gens n'achetaient plus de vêtements. Non ? Ou que, bien évidemment, il y avait des soucis pour pouvoir en acheter, compte tenu, d'une part, que les Français consommaient de moins en moins de vêtements relativement à leurs autres capacités de consommation, et que, d'autre part, il y avait des gros soucis pour toute la chaîne de distribution.
Mais c'est pas
Kiabi qui a cartonné, là ? Kiabi a cartonné. Il a gagné 2,5% de parts de marché. Il est passé à près de 1,4 milliard d'euros. Entreprise du groupe Unilever. 1,4 milliard en hausse par rapport à 2012. Tout le monde était étonné. C'était publié par La Voix du Nord, je crois, c'était publié par Les Échos, etc. Donc, moi, ça m'étonne. Mais là, on dira Kiabi, c'est pas seulement le groupe Mulier. Le groupe Mulier n'est que pour un tiers. Les deux autres tiers sont possédés par Gérard Mulier, en propre, pour un tiers, et par son frère Patrick, pour un tiers.
Donc c'est Mulier quand même au total.
C'est la famille, mais c'est pas le groupe Mulier. La dernière estimation qu'on pouvait faire à partir... là, c'est comme d'habitude. On est en train de refaire un classement des grandes fortunes en France, puisqu'on va parler un petit peu des petites fortunes, par contre, après. Les grandes fortunes en France, le classement n'a pas bougé. C'est toujours le groupe Mulier qui est largement en tête. Et le classement qu'on peut faire à mi-chemin, ici, en janvier par rapport en juin... ils ont gagné à peu près 5% de fortune. Un petit peu plus. 5% de fortune. Ils restent largement les premiers. A l'inverse, la plupart des sociétés cotées, comme les sociétés Arnaud, Pinot, etc., ont perdu de la fortune entre juin 2013 et janvier 2014, parce que les valeurs boursières du premier semestre étaient bien plus importantes que les valeurs boursières de la fin d'année et du début d'année. Où il y a effectivement un petit air de crise mondiale qui commence, mais vraiment à... à poindre parce que la Chine, elle n'a pas le taux de croissance qu'on espérait, parce que les Américains n'ont pas pris les mesures que la Fed aurait dû prendre pour donner quoi ? Ben, donner des liquidités au marché. Or, le marché a besoin de liquidités pour spéculer. Pour spéculer, hein. Pas pour faire des emplois. Pas pour faire des vrais investissements, pour spéculer. Et donc, dès qu'il y a un risque, moindre risque de liquidité ou d'insuffisance de liquidité, la bourse chute. Et notamment toutes les boîtes qui vivent du luxe, etc. Parce que il y a eu un deuxième phénomène qui était important vis-à-vis de la Chine, c'est que la Chine, dans le cadre de son petit recentrage avec son nouveau président, etc., sont en train de faire la chasse aux riches, enfin, entre guillemets. Ils font la chasse, plus exactement, aux signes extérieurs de richesse. Ce qui fait que les gens hésitent maintenant, en ce moment, à acheter des produits de luxe, ou dits de luxe,
d'accord,
trop voyants. Et donc, toutes les entreprises de luxe, et on regarde...
Si oh là
on...
là
hein gros problème.
Gros problème.
Par exemple, pour LVMH, pour des boîtes qui vendent du champagne, du cognac, etc. Toutes ces boîtes-là, en ce moment... Chanel et ainsi de suite, sont en train de voir leur chiffre d'affaires diminuer en Chine. Et ça pose un vrai problème, par exemple, pour ceux qui ont beaucoup investi vers la Chine, parce que, bon... Et en plus, les Chinois, ils rachètent directement des produits en France. Donc, ils achètent maintenant donc des vignes entières. Donc, bientôt, ils ont même pu à s'approvisionner chez le VMH. Hein, ils laisseront leur truc et puis ils vont payer le reste. Donc, on est dans un système où il faut faire très attention. Donc, manque de liquidité, problème boursier. Et problème boursier, il y a un gros problème qui va se produire en France, en Europe et dans le monde. C'est s'il y a une crise financière, parce qu'il y aura une banque qui fait défaillance, qui sauve ? Qui sauve ? Il semblait bien qu'on avait dit qu'il y allait avoir des mesures prises au niveau européen. Il devait y avoir un fameux accord signé fin décembre et c'est terminé au mois de janvier. Entre Merkel, notre président, et puis l'ensemble des membres européens, au moins au niveau du groupe euro, pour ajuster les problèmes de risque, qu'on appelle des risques systémiques pour la finance mondiale. D'accord. Normalement, c'est quoi le risque systémique ? Le risque systémique, c'est quand une grande banque risque de ne plus avoir assez de liquidités pour faire face à ses engagements. Ça arrive. En France, on a trois banque systémique. On a le plus gros système financier européen en termes de risque systémique. On a le Crédit Agricole, la BNP et la Société Générale. Trois. Et donc, si l'une d'elles faisait défaillance, quelle est la base de la négociation actuelle entre les Européens ? Ils disent qu'il doit y avoir trois niveaux où on va répondre à cette crise systémique s'il y a une insuffisance au niveau d'une banque. D'abord, que les banques se débrouillent entre elles. Donc c'est elles qui sont à l'origine du problème du risque systémique, si elles ont spéculé, qu'elles ont des positions qui sont mauvaises, etc., que ça entraîne des pertes. Donc d'abord, les banques se débrouillent entre elles. Bon, jusque-là, il n'y a pas de souci, c'est les banques qui créent les problèmes, donc bon, elles se débrouillent. Sauf que si c'est une grosse banque majeure, ça risque de faire très mal. Deuxième niveau de responsabilité après, il y aura la Banque Centrale Européenne. Et donc là, on est en train de dire, au cas où les banques ne pourraient pas faire face... ça serait la Banque Centrale Européenne qui intervient en donnant son quitus ou ses feux verts pour faire d'abord des liquidités, faire en sorte que les problèmes ne sautent pas trop sur la banque qui est en faillite, etc. Sauf que ça aussi s'est réduit. La Banque Centrale Européenne n'a pas les moyens de faire ça. Il devait y avoir des fonds spécifiques créés pour pouvoir faire face à ce type de problème. Ils ne sont toujours pas dans les fonds, hein. Donc on attend désespérément après des fonds au niveau de la Banque Centrale Européenne pour avoir un fonds suffisant pour faire face à un risque systémique. Et après, il y a un troisième niveau qui est, si la Banque Centrale Européenne n'arrive pas à endiguer le problème, c'est on a recours aux États. Oh là là, alors là, les États, ils sont fauchés, hein, je ne vous dis pas. Après tout ce qu'ils ont payé avec la première crise financière en 2007-2008-2009, on y reviendra... Tous les États sont à plat.
Ils emprunteront auprès des autres banques pour prêter à la banque qui a un trou. Mais je ne suis pas sûr que les autres banques vont leur faire confiance.
D'abord, ça veut dire dans l'accord, dans les accords qu'ils prennent, ce premier niveau-là sera déjà fini depuis longtemps. Hein. C'est-à-dire que les autres banques n'auront pas eu les moyens de sauver la banque défaillante. même en les rachant, hein, je veux dire, parce que comme elles se tiennent toutes par la barbichette, il y a un gros souci.
Après, il y a les fonds des clients depuis Chypre, mais je suis pas certain qu'il y ait assez d'argent réel
alors voilà,
dans les banques.
Il y a quelques petits problèmes.
Il y a quelques petits problèmes avant. Il n'y a plus de sous dans les banques.
Alors, non, mais c'est pas ça. C'est que on disait qu'il n'y a plus de spéculation. Bah, plus de spéculation. Quand on regarde la crise financière entre 2009 et 2010, effectivement, on voyait que l'articulation entre l'économie réelle et les transactions financières, c'était quelque chose d'intéressant. Par exemple, le PIB mondial en 2009, il était de 35 383 milliards de dollars. 35 383. Le PIB du monde entier, hein, d'accord ? Tous les pays, toutes les richesses. En même temps, les flux financiers, les transactions financières internationales cette même année, elles étaient de 1 898 499 milliards. D'accord ? L'économie réelle ne représentait que 1,86% de l'économie financière. D'accord ? Donc avec la crise.
Très gros.
Avec la crise. Or, depuis 2009... On est passé de 1,86. 2010, ils sont restés raisonnables, si je puis dire, à 1,86. Mais en 2011, on est retombé à 1,81, l'économie réelle par rapport à l'économie financière. Et maintenant, on est déjà en 2012 à 1,80. Donc la spéculation financière a repris plus belle. En 2012, on est à 2 152 202 milliards de dollars de transactions financières, alors que le PIB mondial est que de 38 687. Donc d'un côté 2 152 000, et de l'autre côté 39, même pas. Okay. Cherchez l'erreur.
Des chiffres.
Non mais...
Reposons-nous un petit peu l'esprit et la calculette.
Je vais quand même y revenir après, hein, parce qu'on parlait de chiffres, etc., après. Mais et c'est
pas
triste. Il faut
qu'on revienne aussi sur ces licenciements au champ. Hein. Mmh. Alors d'abord, reposons-nous les chiffres. Alors, gratuit. Hein. Alors le 6 février, soutenez la presse libre, une soirée de soutien au journal La Brique. Donc ce sera à nouveau l'occasion de s'amuser, danser et chanter surtout, et soutenir la presse libre du coin, dans laquelle d'ailleurs on voit parfois tes initiales, Benoît, si mes
mémoires sont exactes. Je vais intervenir un peu bientôt.
Le tout dans une ambiance hip-hop et afro-funk Kumba. Et oui, alors n'hésitez pas. C'est donc le 6 février à 20h30 au Resto Soleil, 10 rue Henri Kolb à Lille. Donc le 6 février, 20h30 au Resto Soleil à Lille.
C'est après-demain, ça ?
À Lille, c'est après-demain, oui.
Non, demain.
C'est une émission d'actualité. Demain, c'est demain. L'émission. Non, aujourd'hui, l'émission est enregistrée mardi soir. On la passe mercredi.
Donc ça sera.
Si on ne va pas tromper nos auditeurs.
Si on trompe nos auditeurs, c'est normal. Hein, on fait comme tout le monde.
Vous n'avez pas beaucoup de moyens. Alors moi, j'ai qu'un conseil à vous donner. Investissez dans La Brique. La Brique Lille, c'est chez votre marchand de journaux. Voilà, le dernier numéro, c'est sur la culture en rade.
Et le prochain, ça sera sur notamment les grandes fortunes du Nord.
Encore de l'argent, mais il pense qu'à ça, il pense qu'à ça.
Il pense qu'à ça. Y a des vraies surprises. Il y a des vraies surprises parce que notamment, on verra qu'il y a des gens qui étaient spécialisés. Tu avais fait, je crois, une émission sur l'amiante.
Oui, exactement.
Et donc, on va s'apercevoir que parmi les trois familles, dont une famille nordiste qui était spécialisée sur l'amiante, qui possédait des ternites, ils se sont reconvertis. Et se sont reconvertis dans le pinard. Et donc, ils ont acheté des grands crus.
D'accord.
Peu de gens savent ça, par exemple.
Eh ben, on va bientôt
savoir. Il va y avoir des belles surprises.
Allez, une petite chanson, Société Anonyme, par le groupe Société Anonyme.
Dans un building de 20 étages, c'est comme l'hiver. Travaille pour une société de 100 000 actionnaires. Ce nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime. Ça appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime. Ça appartient à la société anonyme. Veulent augmenter leur standing. Un jour la société a fait construire près du building une belle cité. Et l'on t'a dit d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé. On vous aidera 20 ans, rien est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, ça appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, ça appartient à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société, elle est graissée, elle est lavée, une de 23 chevaux. Petit ami te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, ça appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, ça appartient à la société anonyme. Monsieur Grand, que feras-tu quand t'arrivera le jour de l'addition? Lorsque les anges près de Saint-Pierre ensemble te diront: rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi, tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi.
Société Anonyme, par le groupe Société Anonyme. Vous écoutez Radio Campus Lille, actualité régionale. Alors Fabien, donc c'est licenciement à Auchan.
Oui, donc alors officiellement, il n'y a pas de licenciement prévu. Auchan martèle haut et fort qu'on est bien dans du plein emploi.
On n'a jamais licencié chez Auchan.
On n'a jamais licencié chez Auchan.
Et prière de croire.
Voilà. Donc, par contre, il y a effectivement des suppressions de postes. Donc il y aura des emplois en moins. L'annonce qui est faite, c'est qu'il y aura des repositionnements. Il y aura des parents à la retraite non remplacés. Il y aura des mécanismes de pré-retraite. Il y aura des incitations à l'ouverture de la création d'entreprises ou des choses comme ça. Donc,
c'est ce qu'on appelle un PSE chez moi.
Voilà, ce sera effectivement, il y aura un PSE.
Et un PSE, c'est un plan social de réduction des effectifs.
Oui, bien sûr, oui. On appelle ça un plan de sauvegarde des emplois, ouais, mais en fait, c'est un mécanisme qui permet d'en supprimer. Ouais. Donc la négociation du PSE va démarrer prochainement, en février. Donc, en février
avec de nouvelles règles.
Avec les nouvelles règles.
Et les nouvelles règles sont encore, là aussi, un grand acquis social du pouvoir socialiste.
PS.
Il insiste.
Du PS.
Donc voilà, donc en fait, on parlait de licenciement. Avant l'annonce en tant que telle, il y a déjà eu des licenciements. Le système qui est mis en place, qui s'appelle le management de l'offre au magasin, a été testé sur Saint-Quentin. Saint-Quentin, on n'a pas attendu un PSE, on n'a pas attendu des reclassements et des repositionnements, etc. Il y a déjà des chefs de rayon qui ont été mis dehors. Donc comment ça s'est négocié pour les uns ou pour les autres, il peut y avoir des différences. Il y en a, on sait qu'ils ont été jetés dehors, purement et simplement. On leur trouve un problème, ils font plus bien leur boulot, et on leur trouve des fautes. Et puis, ou alors on les harcèle suffisamment pour qu'ils soient dégoûtés, qu'ils aient envie de partir d'eux-mêmes.
Il n'y a pas de harcèlement aussi.
Si, ça se fait. Actuellement, de plus en plus, moi j'ai des appels de cadres en magasin qui viennent expliquer la manière dont ils sont traités par le responsable, par toute la hiérarchie qui se met en place sur eux. Il y en a beaucoup qui sont en arrêt maladie, qui sont en dépression, qui sont...
C'est la Sécu qui paye.
Mais que fait la CGC?
Ah bah pour l'instant, bah eux, ils sont un petit peu en retrait par rapport à ça. Ils interviennent pas beaucoup parce qu'ils ont pas beaucoup de latitude pour intervenir. Ils ont été mis là pour pas que d'autres syndicats puissent prendre la place. Et en même temps, dès qu'ils réagissent, ils se prennent de claques et ils reviennent vite en arrière, dans les clous, en disant « désolé, je peux pas t'aider plus ». Et puis ils envoient vers d'autres syndicats, des fois.
Donc le genre de comportement, je sais pas, moi, t'enterres... Tiens, t'enterres ton père, ça arrive tous les jours. C'est vrai que quand tu rentres au boulot, ça se fait souvent le week-end, quand tu rentres au travail le lundi, on te reproche la façon dont tu l'as annoncé. Ton supérieur hiérarchique, c'est des pratiques, je ne veux pas dire que c'est systématique, mais attends, c'est des cinglés.
Mais globalement, en fait, tout le monde sera concerné, parce que souvent, on entend dire dans les couloirs, pour l'instant, c'est que les magasins, et encore, c'est que les cadres, et c'est 800, on est 55 000 salariés à Auchan France, c'est 800...
Beaucoup moins, on est à 46 000,
et je regardais... Alors ça dépend les intérimaires, les CDD...
L'effectif en équivalent temps plein, donc il faut prendre un effectif bien précis. Or déjà entre 2011 et 2012, la publication officielle des comptes Auchan France, parce que seule elle les publie, même si c'est un peu tronqué, faisait apparaître une diminution des effectifs. Il y avait à peu près, de mémoire, mais là je me trompais, donc je rectifierai la fois prochaine si nécessaire, mais il devait avoir à peu près 600 personnes en moins sur à peu près 45 000 équivalents temps plein.
D'accord.
Sur Auchan France, pur. Donc c'est-à-dire sur les hyper.
Ouais.
D'accord. Donc on était déjà avec des baisses d'effectifs l'année dernière. Donc contrairement à ce qu'ils disent, on n'est pas sur des augmentations d'emplois. On est déjà bien sur des dégraissages qui se font.
Il y a déjà eu plusieurs PSE. On en est au quatrième et cinquième PSE.
Avec les caisses automatiques, il y a eu des millions d'heures en moins.
Sur l'ensemble de la société, les heures en moins, c'est les emplois en moins. Alors bon, tu comptes en équivalent temps plein.
Non, c'est pas moi, c'est eux qui comptent en équivalent temps plein. Je fais avec les chiffres qu'on me donne, parce que on est plutôt sur le nombre de personnes. Vous donnez des mauvais chiffres.
Ça dépend du critère qu'on reprend.
Moi, j'essaie de me plaider d'un point de vue juridique, parce qu'après, on va m'attaquer en justice et on va dire que je ne donne pas les bons chiffres. Donc, je ne prends que les chiffres qu'on veut bien publier officiellement. Et donc là, il y avait bien l'année dernière une réduction des effectifs et d'équivalents temps plein pour Auchan France.
Oui, oui.
Claire.
Voilà. Donc effectivement, malgré tout, il y aura...
Et ça concernait déjà les cadres.
Bien sûr. Puisqu'il y a eu les chefs... au niveau de la comptabilité, etc., il y a eu des choses. Donc il y a l'aspect réduction du nombre de personnes. Il va forcément y avoir une augmentation de la charge sur l'ensemble des personnes qui vont rester. Ça ne va pas concerner que les cadres, ça va être
toute la chaîne.
Donc tous les employés verront une pression s'accroître, verront des charges de travail...
Ils verront leur responsabilité s'améliorer également. Aussi.
Ils verront, effectivement, on peut l'appeler comme ça... Et par contre, la rémunération, elle, va continuer à chuter. Parce que les chiffres qui sont annoncés pour les deux ou trois prochaines années vont se dégrader. C'est annoncé comme ça. On espère éventuellement repartir à la hausse à partir de 2016. Et de revenir en 2016 au niveau de rentabilité de 2013. Qui avait été annoncé comme étant l'année noire à Auchan. Donc on est parti pour plusieurs années de serrage de ceinture. Déjà... Les gens ont pu constater une baisse de rémunération. Hein. On le constate déjà depuis quelques temps.
Les rémunérations variables ont disparu. De toute façon,
la rémunération globale baisse puisqu'il y a les variables. Les variables dégringolent. Il y a moins d'intéressement. Les primes de progrès fondent. La participation, se fait sur le périmètre du groupe. Donc il peut encore y avoir un intérêt. Mais globalement, les gens, s'ils ont regardé un petit peu ce qu'ils ont déclaré aux impôts l'année d'avant et cette année, ils verront bien qu'il y a une petite
différence. Malgré les manipulations du Parti Socialiste sur le calcul de l'impôt. Ça veut dire qu'ils perdent beaucoup.
Quand tu déclares ton
Parce que maintenant, on a mis des choses supplémentaires imposables. Je signale à tout le monde qu'il va encore y avoir des choses supplémentaires qui vont être calculées sur... les impôts de l'année prochaine, notamment par exemple les mutuelles, les frais de mutuelles vont être intégrés au calcul du bénéfice imposable. Monsieur Hollande.
Donc n'hésitez pas, les élections municipales se profilent, allez en parler à vos candidats.
Oui, parce que c'est exactement le même système qui se passe. On parlait de la redoute tout à l'heure, il faut quand même en parler. La redoute.
On n'en parle plus ces derniers temps.
Non, mais manifestement.
Ça a été repris,
paraît-il, par deux cadres qui ont des compétences particulièrement intéressantes, semble-t-il. Les seules compétences intéressantes que je puisse voir, c'est qu'ils vont faire le sale travail que n'a pas voulu faire M. Pinault, c'est-à-dire fermer la boîte. Quand on regarde les évolutions de ce type de reprise en France, on constate d'abord deux choses, c'est que dans un premier temps, on fait ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire M. Pinault s'engage à verser 300 millions, plus encore quelque chose, pour permettre aux deux cadres de reprendre dans de bonnes conditions la Redoute, qui est pratiquement le périmètre maintenant Redoute France, etc., puisque toute une série de filiales ont déjà été vendues au niveau de Red Cats International. Bon. Donc, nos malheureux cadres qui reprennent ça, si je puis dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont devoir gérer la fin de perte des effectifs. Déjà, Pinault a annoncé qu'il licenciait 1500 personnes. Bon, merci, bonjour les dégâts. Si jamais il payait, ce dont je doute fortement, puisque là, pour l'instant, on est sur une annonce, les syndicats, si j'ai bien compris, demandent 100 000 euros par personne comme prime de licenciement hors prime légale. 100 000, on peut rêver, hein, mais oui. on voit rarement ça, sauf quand il y a vraiment des gros conflits. Donc 100 000 par 1500 personnes, ça fait déjà 150 millions qui devront être financés sur les 300. Je ne vois pas M. Pinault remettre de l'argent au pot. Si c'était ça, ça veut dire qu'il y a déjà 150 sur le plan de restructuration qui saute, avec tout un ensemble d'éléments qui vont à côté. Et donc, les 150 millions, quand on te voit que les pertes de la Redoute ont été de l'ordre de 80 millions, 50 millions ces dernières années, il leur reste 2-3 ans à vivre. L'expérience que moi j'ai de ce type de reprise, la dernière que j'ai vue, qui était sur une entreprise aussi grande que ça, puisque c'était la Lainière de Roubaix, ça s'est traduit par, après 3 ans, la mort de l'entreprise et la disparition de la Lainière de Roubaix. Il n'y a aucune raison que ça ne finisse pas comme ça maintenant. Alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est que on fait des annonces, effectivement, de négociations, etc. Bizarre, les négociations sur la première partie de la mise en place du plan, parce que c'est compliqué, je comprends, Pinault n'avait pas préparé ça depuis très longtemps, hein, ça fait 5 ans qu'il dit qu'il va se séparer de la Redoute, les plans, ils sont dans les cartons depuis belle lurette, et donc tout le monde sait ce qui va se passer. Mais, bon, on ne sait pas très bien, donc on va attendre 3-4 mois, pour bien prendre le temps de présenter la première partie de la restructuration de la Redoute. Et Martine Aubry va s'y attacher fondamentalement. Dans 3-4 mois, les élections municipales seront passées. D'accord ? Et la deuxième partie du plan qui est en train de se faire, on dit, c'est une partie du plan qui va prendre encore 3-4 ans. Ah bon ? Mais 3-4 ans, c'est l'échéance des prochaines présidentielles. Donc comme par hasard, on met les échéances sur ce type de boîte qui correspondent au municipal d'un côté, au régional, et à l'élection présidentielle. On se fiche de qui, là? Donc Martine Aubry, qu'elle me dise, puisque c'est une bonne amie de M. Pinault, manifestement, on les a rencontrés ensemble, etc. Donc qu'elle me dise, mais qu'est-ce qu'elle compte faire très concrètement pour que la Redoute subsiste? C'est certainement pas ce bout de sparadrap qu'on est en train de mettre avec deux cadres, qui ont des compétences d'ailleurs limitées dans leurs activités respectives anciennes. C'est pas ça qui va permettre de redresser la Redoute. Alors qu'on connaît déjà en plus des problèmes sur Trois Suisses, etc., etc. D'ailleurs, la famille Mullier va se désengager probablement des Trois Suisses, puisque Autoversand va reprendre toute la partie industrielle, entre guillemets, de Trois Suisses. Donc on va garder que la partie financière. Donc la partie financière, on comprend qu'il la garde. C'est Cofidis, c'est consorts, donc en liaison avec le Crédit Mutuel. Bon, alors, tranquille, ça crache de l'argent. Par contre, c'est Autoversand qui va reprendre la partie, qui est la partie industrielle de grande distribution VADIS de Trois Suisses. Et on a vu que Trois Suisses a quand même eu, si j'ai bien compris aussi, pas mal de licenciements. Et que c'est pas fini, ça continue. Donc on est dans deux grands VADIS traditionnels qui avaient fait le cœur de l'activité, qui avaient fait la réputation du Nord à une certaine époque. Quand on a dit qu'il n'y avait plus de textile, mais au moins on avait la distribution, on avait la VAD, on était les leaders mondiaux de la VAD, c'est par terre. Tout ça parce que des investisseurs pas scrupuleux du tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis à plat ça. Pinault, il n'a pratiquement jamais investi pendant plusieurs années, dans la Redoute, jamais.
Enfin, il a encaissé les bénéfices.
Ben, il a surtout encaissé le fait que la partie financière de la Redoute était rapidement mise en vente et était rachetée. Et il a récupéré ici, là aussi, des gros profits et des grosses plus-values. Et que ces plus-values lui ont permis effectivement de racheter autre chose comme Puma, etc. Et donc toute l'activité de luxe dans laquelle il s'est reconverti. Donc ce qui est quand même très étrange, c'est que toute une série de ces fortunes qu'on voit partout ici dans le Nord,
puisqu'on parle du Nord. Capitaines d'industrie.
Les capitaines de quoi ? Les capitaines de quoi? D'accord. Les capitaines de quoi? C'est des capitaines qui, en fait, coulent les bateaux qu'on leur a confiés pour récupérer le maquis au fond du bateau.
C'est le Concordia, là.
Voilà, c'est le Concordia. Et après, on dit, bah ouais,
le capitaine est déjà parti.
Le capitaine est déjà parti et il part avec la caisse. Arnaud, il a fait ça avec le groupe Agache-Pillot et avec le groupe Boussac. Il a gardé tout ce qui était bien dedans. Et puis après, il a fondé avec Dior, la perle Dior, et avec la vente de peau douce, etc., etc. Il a refilé ça, le bébé, à son petit copain de Polytechnique, VEV, qui a le fameux Provo et la Lainière. Et la Lainière a fini, rachetée par 2-3 cadres, et après, 2-3 ans après, il n'y a eu plus personne. La redoute, on peut déjà préparer la pierre tombale, hein, pour moi. Je l'ai mis sur mon blog, je confirme tout à fait. Il n'y a personne qui a dit le contraire pour l'instant. Bizarre. Mais l'histoire, quand même, doit être, on doit y réfléchir.
De risque là-dessus.
On doit même y réfléchir parce que, oui, mais c'est dommage pour les gens.
Oui, oui, bah bien sûr.
Je veux dire, parce que si on ne dit pas les choses, ce n'est pas ce qui va empêcher qu'elles se passent. Et donc, le vrai problème, c'est de dire maintenant, bon, Martine Aubry, d'accord, chiche. Tout le monde dit chiche, hein, maintenant, il paraît que c'est le grand mot à la mode. Chiche.
Ah bon?
Chiche, ouais. Tout le monde dit chiche. Ouais. À l'UMP, c'est chiche. Au PS, c'est chiche.
Chiche, bah, chiche, chez la famille Mullier aussi, ils sont très chiche.
Chiche.
Et donc, pour leur salaire.
C'est pas le même chiffre, à mon avis. Mais... Donc, chiche, qu'elle déclare rapidement quelles mesures elle va prendre avec le groupe Pinot et les repreneurs actuels pour redresser efficacement la redoute. J'attends que ça, on pourra voir un vrai plan avant les élections municipales.
Je pense qu'il va falloir conclure.
Oui.
Alors moi j'ai une idée pour les salariés de la redoute, bon, il y en a qui ne vont pas apprécier. Bah, écoutez, il faut demander à Mme Michèle de Messine, qui se présente aux élections municipales, d'écrire à Martine Aubry, parce qu'elle fait beaucoup de courriers, cette dame au ministre et autres,
très bien,
sur des problèmes sociétaux. Mmh. Nous allons donc vous quitter, rendez-vous le mois prochain, donc vous écoutiez Radio Campus Lille, avec Benoît Boussemard, Fabien et votre serviteur. Une dernière petite chanson, Marcel et son orchestre, nous n'avons plus les moyens.
C'est le cas de dire.
Qu'est-ce qu'on attend pour refouler les pauvres à la périphérie? Puisqu'ils font tâche, qu'ils incommodent ceux qui ont les moyens de consommer. Qu'est-ce qu'on attend pour expulser les assistés, les parasites? Tous ces minables, ces maillons faibles qui ralentissent le marché. Nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus les moyens. Ya, ya, ya. Qu'est-ce qu'on attend pour supprimer les oisifs, les improductifs? Ceux qui ne sont pas à la hauteur, qui viennent gâcher notre bonheur. Qu'est-ce qu'on attend pour tourner le dos aux lois et aux acquis sociaux? Si les salariés coûtent trop cher, y'a qu'à les priver de salaire. Nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus les moyens. Qu'est-ce qu'on attend pour effacer des mots comme solidarité? C'est ordinaire et c'est grossier. Allons, un peu de dignité. Qu'est-ce qu'on attend pour afficher la sympathie pour cette solution qui avait fait